Bonjour chers frères et sœurs, je me nomme Princilia Pérez. Je vis à Brazzaville et j'aimerais partager le témoignage de l'œuvre de Dieu pour ma vie et pour l'association que j'ai la grâce de diriger qui s'appelle Les Ailes de Raphaël et qui est engagée dans la réinsertion des personnes en situation de vulnérabilité par le biais des arts de la scène. Cette aventure, j'ai envie d'appeler ça aventure avec le Seigneur parce que c'est bien une aventure qui n'est pas encore terminée, qui se continue, qui se poursuit. C'est très important de témoigner parce que ce que Dieu a fait est juste merveilleux. Je ne peux pas garder ça pour moi. Et cette aventure a commencé il y a un tout petit peu plus d'un an. Ça avait commencé par des songes. En fait, j'ai fait un parcours de science, mais le Seigneur m'a emmené par un réarrangement vraiment très étrange et aussi éprouvant vers les lettres. Et je suis auteur de deux livres, un livre qui s'intitule « De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire » qui a été publié chez l'Harmattan en 2017 et un deuxième livre qui parle de ma rencontre avec le Seigneur à l'occasion d'une expérience de mort imminente qui a été auto-édité et publié donc sur Amazon en 2020. Le Seigneur m'avait donné des songes dans lesquels je me voyais monter sur scène. L'un des premiers songes, c'était que je me suis retrouvée dans mon ancien campus parce que j'ai fait des études de médecine. Et il y avait comme un concours pour entrer dans une école d'art. Et il faut dire qu'à Brazzaville, il n'existe pas d'école d'art, en tout cas pas que moi je connaisse. Voilà, c'est le talent qui prime et le talent qui nous emmène à sortir des frontières de notre pays pour nous faire former éventuellement. Alors j'avais fait ce songe-là. Et dans un de ces songes, je voyais qu'il y avait un concours et je devais concourir. Mais j'étais un petit peu négligente pendant que les autres s'inscrivaient. Moi, j'avais la tête ailleurs. J'étais un peu, oui, je vais le faire. Et à quelle heure va passer l'épreuve? J'avais pas vraiment ma tête, vraiment toute ma tête là-dedans. Il y avait même une épreuve de danse qui devait passer à une certaine heure. Et j'ai dit à une fille, est-ce que tu pourras me faire signe au moment où l'épreuve va commencer? Et quand je reviens, l'épreuve avait déjà commencé et je pense que les gens étaient en train de terminer. Je m'en suis prise à cette fille-là pour dire, je t'avais dit de me faire signe quand l'épreuve commencerait, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait signe? Et elle dit, mais tu penses que je suis venue ici pour faire ça? Moi, je suis venue pour candidater comme toi, donc si t'es pas au sérieux avec ce que tu viens faire ici, faut pas t'en prendre aux gens. Et j'ai entendu une voix dans le ciel me dire, tu es en train de prendre tout ceci avec négligence. Il faut que tu te détaches de cette négligence si tu veux que je continue à faire pour toi. Ça, c'était le premier songe dans lequel Dieu m'interpellait. Dieu m'interpellait pour me dire, il faut vraiment que tu prennes tout ceci au sérieux. Le deuxième songe dans lequel j'ai vu que Dieu m'appelait à l'art, c'était comme un spectacle, toujours dans l'enceinte de la faculté de médecine. Et il faut rappeler que c'est là où j'avais fait mon concours de médecine. Mais dans ce songe-là, je faisais donc des concours donc d'art. Je me retrouve donc dans, c'est une espèce d'amphithéâtre, et j'étais venue avec un vêtement blanc, mais il était déchiré, il était sale, c'était des haillons en fait, c'était pas véritablement des vêtements. Et je me souviens que dans ce sens, j'accompagnais quelqu'un, mais je ne sais plus qui c'était. Et quand j'arrive, il y avait vraiment, dans cet amphi, l'amphi était plein. Je vois qu'il se rapproche de moi pour me dire, c'est toi qui dois remplacer. La personne qui devait passer ne passera plus, mais c'est toi qui dois remplacer. Il faut que tu montes sur scène. Et à ce moment-là, dans la confusion, je ne comprends pas pourquoi c'est moi qu'on choisit, surtout que je suis accompagnée d'une personne et qui je suis venue remplacer, je ne sais pas. Et donc, je monte sur scène en haillons. Hein. Je regarde la scène et j'ai le micro devant moi. Je me mets à chanter. Et quand je chante, je ne me vois pas moi, mais je me vois moi, mais à l'intérieur de moi, il y a comme une autre version de moi, mais en tout petit, comme une muse, comme vraiment quelqu'un de tout petit qui est dans ma gorge, donc qui chante. Et c'est cette muse, c'est comme un tout petit moi qui chante à l'intérieur de moi. Et quand cette voix-là est écoutée, quand les gens l'entendent, les gens sont saisis, les gens sont touchés, et ils sont juste en train de bénir Dieu. Ils me cherchent, ils me disent, mais où étais-tu depuis tout ce temps? On ne te voyait pas et tout ça. Et je repars dans les coulisses, je vois ma mère qui vient vers moi avec une de ses petites sœurs. Une de ses petites sœurs, une connaissance, mais elles sont comme des sœurs, en fait. Et elle me dit, mais moi, je suis venue, je ne savais pas que tu chantais aussi bien et tout. On avait déjà fait rentrer ton nom à la fonction publique. Est-ce que tu veux qu'on retire ton nom? J'ai dit, mais vas-y, retire mon nom. Ma place n'est pas à la fonction publique. Tu vois bien ce qui vient de se passer. Et donc, je repars dans les coulisses et là, je découvre tout un monde. Et voilà. Ça, c'était le deuxième songe. Bien avant cela, bien avant ces deux songes-là, mais ça fait des mois, ça j'avais oublié, mais j'avais en fait déjà plusieurs songes que Dieu me donnait, mais je ne prêtais pas seulement attention. Dans un de ces songes qui était précédent là-bas, je me voyais donc dans un stade de football et il n'y avait personne dans le stade, il n'y avait que moi une autre fille. Il était question qu'on fasse une course à pied. Et lorsqu'on a fait la course à pied, ce qui était étonnant, je suis arrivée en deuxième tour. Vu qu'on n'était que deux, donc ça voulait dire que j'avais perdu la course. Et lorsque elle a franchi la ligne d'arrivée, j'ai franchi la ligne d'arrivée à mon tour, il y a une voix qui a retenti dans le ciel, donc dans l'espace en tout cas, qui a dit « Tu es arrivée en deuxième position parce que tu avais peur. » Donc voilà les trois songes que le Seigneur nous avait déjà donnés. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis donc journaliste pour un hebdomadaire culturel dans ma ville, dans ma capitale, dans mon pays. Dieu avait mis dans mon cœur de faire quelque chose de ces deux livres-là. Parce que je sentais que sur le plan de l'écriture, j'étais pas assez bien outillée. C'est vrai que j'avais publié les livres, mais tout ce qui était au niveau de la communication, que je ne savais pas m'y faire. Et moi, mon désir était vraiment que le message de ces livres ne reste pas juste contenu dans ce livre, dans les livres, et qu'il puisse passer par un canal plus direct, plus vif, plus actuel, et qui saisirait une plus grande partie de la population, parce que je trouvais que le livre était un petit peu orphelin. Je suis allée à l'Institut français du Congo pour faire des ateliers de slam et poésie. J'avais choisi le slam et la poésie pour passer le message que Dieu m'avait donné et que j'avais canalisé à travers ces deux livres-là. En arrivant, j'ai donc rencontré un ami qui est aussi poète, qui s'appelle Black Panther, qui nous avait suivis lorsque j'avais fait une première version de mon association, mais je l'avais vraiment fait sans Dieu. Et je me suis pris des coups. Dieu m'avait d'ailleurs dit, tu as échoué parce que tu étais parti sans moi et tu étais parti trop tôt. Trop tôt et sans moi, c'était les raisons pour lesquelles la Fondation Raphaël n'avait pas continué son œuvre parce qu'on était parti trop tôt et sans Dieu. Donc, là, vous allez comprendre que c'était vraiment l'œuvre de Dieu. Donc, j'arrive donc à l'Institut français pour me faire former aux ateliers de slam et de poésie. Je tombe sur cet ami-là et il me dit, on va faire un premier travail parce que moi, vraiment, l'idée, c'était tout de suite qu'on devait faire un spectacle. Mais je voulais vraiment être dans ce spectacle, faire un spectacle pour transvaser le message de mes livres. Et là, je me confronte à tout type de difficultés. On me dit, ben, c'est très difficile parce que pour monter un spectacle, il faut que tu aies des moyens, il faut que tu aies des sous. Et que si le spectacle arrive à intéresser pas mal de gens, s'il arrive à se vendre dans des festivals internationaux, il faut que tu sois en mesure aussi de faire voyager tous les membres de ton spectacle. Donc, si tu fais un spectacle avec déjà une dizaine de personnes, c'est trop. Tu ne pourras pas tous les faire voyager. Donc, du coup, il faut faire vraiment un truc réduit au minimum avec deux, trois personnes pour que tu puisses vendre ton spectacle éventuellement sur d'autres pays. Et là, pour le coup, je me dis, OK, j'avais reçu, lorsque j'étais venue chercher mon fils à son école, j'avais reçu slam et danse. Vraiment, ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Slam et danse, mais je ne savais pas vraiment quoi en faire. Donc, je suis allée faire du slam en me disant que la danse viendrait par elle-même. Alors, j'ai fait du slam et au bout de 3-4 mois, voilà, l'objectif de mon coach de slam était de transformer mon écriture en prose pour en faire une écriture poétique parce que selon lui, mon écriture était assez lourde et les termes assez scientifiques et donc on allait rentrer dans quelque chose de léger, de quelque chose touché l'émotionnel. Et donc, c'est un pari qu'il a réussi à réussir avec moi au bout de 3-4 mois. J'ai écrit un texte extraordinaire qui les a fait pleurer, littéralement, tous. D'ailleurs, on avait donné un nom à cet atelier parce qu'il y avait moi, il y avait un garçon bègue, il y avait une fille qui avait subi des violences liées au genre. Donc, on avait tous des histoires un peu lourdes. On avait trouvé un petit nom qu'on avait donné à cet atelier-là pour l'appeler Atelier Matanga. Matanga signifie veillée, veillée mortuaire. Donc, c'est une veillée là où les gens vont pleurer. Donc, c'était vraiment un truc, c'est pour dire que notre atelier faisait pleurer. Ça touchait l'émotionnel et vraiment tout le monde pleurait quand on se mettait à déclamer. Alors, lorsqu'on est arrivé à cette étape-là, il m'a dit, tu es arrivé à la maturité scripturaire que je recherchais avec toi. Il serait bien maintenant qu'on fasse un clip parce que ton message, il va toucher beaucoup de gens, les malades, des personnes en situation de handicap. Donc, il faut bien passer au clip. Mais je vous avoue que je ne me sentais pas prête. J'ai ressenti comme un blocage. Je sentais qu'il y a quelque chose qui manquait. J'étais prête scripturairement sur le clip. Sur le plan poétique, j'étais prête, mais je n'avais toujours pas les moyens financiers pour aller au-delà, vraiment faire les choses comme moi, je les voyais. Mais Dieu avait déjà commencé à travailler. Donc, je n'avais plus la force, le courage de venir faire les ateliers parce que je savais qu'il y avait cette attente immense de la part de mon coach de passer au clip. Et moi, j'étais juste, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. Donc, du coup, je venais plus aux ateliers. Alors, il y a eu un appel à candidature pour un atelier éphémère d'écriture slam et poésie organisé par un poète français qui était donc venu à l'occasion d'un festival de théâtre, festival international de théâtre qui s'appelle Montina sur scène. L'esprit m'a juste touché comme ça, vas-y, vraiment, ça m'avait travaillé pendant 3-4 jours. J'ai jamais eu ce courage-là d'aller vers des activités comme ça, juste sur un coup de tête. Mais ça pesait dans mon cœur, vas-y, 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 ça vraiment, c'était très fort. Donc, j'y suis allée, un peu de façon curieuse, un peu non sans appréhension, mais j'y suis allée quand même et ça a été l'une des plus belles rencontres de ma vie. Donc, je vais rencontrer le poète Étienne Russia. On fait un très bel atelier pendant 5 jours et on fait une restitution à l'IFC qui a été juste trop bien. Et donc, à la fin, Étienne va faire quelque chose, c'est qu'il va recommander mon nom et celui d'un autre apprenti poète, on va dire comme ça. Et donc, tous nos deux noms ont été recommandés à la direction de l'IFC pour faire quelque chose. Bref, c'est comme ça que va commencer la petite aventure des ailes de Raphaël. Nous, au lieu de partir, parce que Étienne n'avait pas été très explicite, il nous a juste dit « allez-y, allez voir Régis et chacun de façon individuelle ». Mais moi, ça me prenait au trip, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais… Le Régis, c'est le directeur de l'Institut français. Et je me disais, qu'est-ce que je vais aller lui dire? Et j'ai posé la question à Étienne, est-ce que je dois venir avec un CV? Est-ce que je dois venir avec une fiche d'article? Je ne comprenais pas vraiment. Parce qu'il m'a juste dit, va le voir, il va faire quelque chose pour toi. Et il savait que j'étais journaliste, écrivain et tout ça. Donc, il voulait faire quelque chose pour moi, mais je ne comprenais pas trop qu'est-ce que moi, je devais faire. Et j'appréhendais beaucoup. Donc, l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est qu'on s'est lié avec l'autre artiste poète à qui il avait donné la même recommandation. On est tous partis, donc avec ceux qu'on n'avait pas recommandés, on est partis tous pour former cette association-là, parce que moi j'avais mon combat pour la lutte contre la drépanocytose, et il y avait un qui travaillait avec les enfants des rues, il y avait une qui travaillait avec les enfants, qui voulait travailler avec les enfants incarcérés, et donc on s'est rassemblé nos luttes pour proposer à l'Institut français la tenue d'un spectacle qui devait se faire à l'IFC à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. On avait quelque chose d'une année pour préparer ce spectacle-là. Mais après, il y a eu, c'est là où les luttes commencent, il y a eu comme, voilà, chacun voulait tirer le drap de son côté. Et ce qui, moi, m'a blessée personnellement, c'est que sur le plan administratif, c'est moi qui ai tout fait. C'est-à-dire qu'on était deux, mais sur les rencontres, c'était vraiment très lourd parce que j'avais commencé à délaisser mon travail au journal et je ne dépendais que de ce travail-là pour vivre. Et donc, du coup, délaisser mon travail pour faire avancer les travaux de l'association là, et savoir que les autres ne font rien et qu'ils commencent quand même à mal parler de toi, à dire que tu sors ta tête de l'eau, pourquoi toi, et alors que tout le monde peut le faire, mais ils ne le font pas. Et grâce à Dieu, j'étais vraiment soutenue sur le plan financier parce que mon investissement presque total s'en allait à l'association. Et grâce à Dieu, l'église de disciples m'a soutenue. J'ai passé plusieurs mois où l'église de disciples prenait soin de moi parce que mon loyer, j'avais du mal à payer. Mon fils tombait souvent malade dans cette période-là. Donc, l'église de disciples a vraiment fait en sorte que je ne sombre pas et que je ne me retrouve pas à la rue. Ils ont été le père et la mère que je n'ai pas sur le plan affectif. Ce qui m'a permis de faire avancer le dossier de ce collectif d'artistes, sauf qu'à la fin, il va se passer un truc lorsque le financement a vraiment traîné. Sur le plan administratif, c'était extrêmement lourd. Et donc, lorsque le financement va arriver, le collectif a fait un truc qui m'a beaucoup blessée. Ils m'ont juste mise à côté. C'était un peu merci, au revoir. En gros, c'était ça et ça m'a beaucoup blessée. Du coup, j'ai essayé de reprendre la lutte, mais sans avoir affaire à eux. Et j'avais eu un songe qui me l'avait confirmé dans le sens où je me suis retrouvée dans un aéroport, donc c'était pour un départ. J'avais ma valise avec moi à mes pieds et je voyais une dizaine de chaises. Je voyais chaque chaise avec sa valise, mais il n'y avait personne. Il y avait la valise, mais il n'y avait pas des gens. J'ai parlé de ça avec Olivier et Olivier m'a fait comprendre que ça veut dire que le projet était vraiment spirituellement, si Dieu m'avait placé à la tête de ce projet, mais que les personnes avec qui j'étais n'étaient pas spirituellement choisies par Dieu et que Dieu, puisque les valises étaient là, Dieu allait me montrer les personnes qu'il avait choisies pour être dans ce projet. Ce qui va m'aider donc à réorienter mon action, donc repartir à ce que j'avais fait la première fois où Dieu m'avait dit, tu es parti trop tôt et tu es parti sans moi. Donc la Fondation Raphaël, j'ai fait la renaissance de la Fondation Raphaël sous le nom que Dieu m'a inspiré, les ailes de Raphaël. Et là, à ce moment-là, je connaissais des gens qui étaient malades. Il y avait un qui était un ami qui souffrait de cancer. Je lui ai dit, viens, on va faire des ateliers. On a commencé comme ça. On était deux, puis trois, et puis d'autres sont venus par la suite. Et ça a été une bataille lorsque le collectif a réalisé que j'avais repris la lutte, puisque l'Institut français avait compris qu'il y avait un problème de leadership et je leur ai tout expliqué pourquoi, parce que j'étais leur interlocutrice principale et ils ne comprenaient pas pourquoi ça partait un peu dans tous les sens. J'ai expliqué qu'il y avait justement des problèmes de leadership et je leur ai demandé de pouvoir continuer le projet puisque c'est quelque chose que j'avais déjà fait, dans lequel j'avais échoué précédemment parce que je n'étais pas avec Dieu, mais je me suis gardée de leur dire et je leur ai juste montré les images des œuvres que j'avais déjà faites et que je pouvais encore faire avec une équipe choisie par Dieu. C'est comme ça que les ailes de Raphaël vont officiellement naître et que on va se préparer pour le spectacle qui était donc prévu le 22 novembre. On se rapproche de la date du 22 novembre, mais le financement n'arrive toujours pas. Il a été débloqué par la direction de l'IFC, mais le comptable nous complique et c'est juste au moment où l'Institut français part en vacances, je pense que c'était en août, et on est parti en vacances sans aucun financement, sachant qu'on devait passer en novembre, donc c'était chaud. Les dernières rencontres pour préparer artistiquement les jeunes, on a fait ce qu'on a pu, et on se rapprochait de la date, et on se rapprochait de la date, toujours sans financement. Et donc on a eu des combats quand même bizarres, parce que l'Union européenne avait voulu, en tout cas une dame qui travaille à l'Union européenne, qui nous avait suivis, lorsque nous étions encore sous la forme de la Fondation Raphaël, nous a vu revenir un peu au devant de la ligne et elle a voulu nous accompagner. Mais bizarrement, sur le plan spirituel, je trouvais que ça bloquait. Il y avait quelque chose qui bloquait. J'ai eu des songes, comme quoi elle était comme dans un réseau dans le plan spirituel. Donc, elle était dans un truc pas bien. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi elle revenait vers moi. Et sachant qu'elle m'avait beaucoup aidée lors de la Fondation Raphaël à nous accorder la notoriété énorme qu'on avait eue. Je la pensais bienveillante, mais non. Donc nous, notre spectacle était prévu le 22 novembre. Elle vient, elle fait quelques réunions avec nous, on fait un brainstorming, on se partage des idées, elle nous propose des idées, on lui en propose et on se dit qu'ils vont venir. Alors, on réalise en fait au final que elle parlait de l'Union européenne, mais sans jamais avoir parlé de nous à l'Union européenne. À quelques jours de notre spectacle, elle nous dit non, mais finalement, il n'y a pas de financement parce que l'Union européenne s'est engagée auprès de gens qui devaient payer les prestataires d'une conférence, la conférence sur le bassin du Congo. Donc, l'Union européenne a des dettes qu'ils doivent payer, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas financer. C'était énorme de dire une chose pareille allant d'un grand organisme. Mais à la fin, on a juste réalisé qu'elle n'avait jamais parlé de nous à l'Union européenne et qu'elle venait en fait pour voler nos idées. Et on va le réaliser comment? Parce que nos idées, elle les a données à une autre association qui va venir à l'IFC faire exactement la même chose que nous. Nous, on n'avait pas reçu les financements. Du coup, nous, on ne s'est arrêté qu'au spectacle, mais on avait des idées de faire un festival. Un festival qu'il faisait déjà, hein, faut le dire, qu'il faisait déjà par le passé. Il nous avait même recommandé de nous associer à un certain groupe, mais Dieu ne m'avait pas mis ça dans le cœur. Dieu ne m'avait pas parlé de ce groupe-là. En tout cas, je ne voyais pas quelque chose de favorable. Donc, je suis restée sur mes positions. Ils ont fait leur spectacle qu'ils n'ont jamais fait à l'IFC. Ils l'ont fait à l'IFC, leur festival, à quelques jours de nous. Donc, ça nous a mis dans une posture de compétition alors qu'on n'avait pas, nous, de nom, on n'avait pas, nous, de moyens. On est devenu un parfait challenger. On va même se voir dans les locaux de l'IFC avec cette dame à quelques jours à peine, hein, à quelques jours à peine de notre spectacle, mais elle n'a aucun égard pour les orphelins qu'elle disait vouloir aider. Il y a vraiment quelque chose, une distance affective. C'est vraiment à la guerre comme à la guerre, et on comprend et on laisse tomber. On se retrouve donc finalement avec un seul financement qui arrive à 3 semaines du spectacle, et c'est le financement de l'IFC. Et on se met à courir dans tous les sens parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, parce qu'il fallait faire le côté technique et aussi travailler sur le côté artistique. Et là, je le fais quasiment seule parce que les jeunes que je forme, ils viennent plus pour l'art que pour l'administratif. Et donc, du coup, je ne travaille plus pour le journal, j'ai plus des entrées. Mais Dieu fait que je ne me retrouve pas à la rue, je ne me retrouve pas sans avoir à manger. On passe des moments difficiles, on arrive quand même à préparer notre spectacle. À ce moment-là, je me dis, vu qu'on n'a pas les moyens pour faire une communication digne de ce nom, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retourner vers l'Église catholique, vers laquelle Dieu m'avait déjà dirigée au travers de songes également. Et j'avais vu des songes, je me voyais à la paroisse Saint-François d'Assise en train d'organiser un concert avec quelqu'un que je connais bien, qui est un peu un de mes anges, qui est mon ex, qui m'a quitté un peu dans des circonstances un peu bizarres. Je me voyais avec lui et là, on était en train d'organiser un concert. Et l'esprit me dit, va, va tout simplement. Donc je me suis dit, peut-être que si ça ne marche pas avec l'IFC, on le fera quand même, mais on le fera à Saint-François. Bizarrement, j'arrive à Saint-François et je réalise que Saint-François est en train d'organiser le 86e anniversaire donc de l'existence de la paroisse. Et en fait, ils avaient besoin de moi. Ils m'ont appelé pour que je sois maîtresse de cérémonie de ce concert-là. Et moi, je suis tellement frappée par comment Dieu parle, comment Dieu fait. Et je me dis, OK, donc les songes que j'avais, c'était pour l'organisation de ce concert. Donc, on fait l'organisation de ce concert, mais moi, je garde ce lien, je me dis. Notre force sur le plan communication, parce que le défi, le challenge de l'Institut français, c'est vraiment, c'est une grande salle, c'est 380 places, nous on n'est pas connus, on est challenger un peu en tout, et on nous dit que si vous arrivez à remplir la salle au tiers ou à la moitié, ce sera déjà une victoire. Donc on essaie de remplir la salle à la moitié, et je me dis, avec l'Église catholique, ça va fonctionner. Je rentre donc, il y a un grand frère, celui qui m'avait sollicité pour animer le concert de Saint-François, qui me fait rentrer dans les commissions diocésaines et paroissiennes de l'enfance et de la jeunesse. Et là, je fais la promotion de notre spectacle, j'invite les gens à venir. Et on est prêt à une semaine et quelques. Hein. On est quasiment prêt à monter sur scène. Et donc, avant de monter sur scène, il y a un événement qui surprend tout le monde et qui va nous mettre en grande, 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 grande difficulté. C'est qu'il s'agit d'un recrutement de l'armée qui a mal tourné. Le recrutement des forces armées congolaises qui a été organisé dans un stade. Ça avait d'abord commencé dans un espace public, c'était pas assez grand. Ils ont donc transféré les aspirants à l'armée vers un stade. Et donc, dans la nuit du 20 au 21, ils trouvent la mort. Ils trouvent la mort dans ce stade et on attend, nous, le mot des autorités pour qu'ils nous disent la conduite à tenir, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura une cellule de crise ou tout ça. Grâce à Dieu, moi, dans mon entourage, je ne connais pas des gens qui sont décédés, mais pour autant, c'est un deuil national qui est décrété. Et donc, deuil national, qui dit deuil national, il y avait l'interdiction d'organisation de spectacles, tout ce qui avait attrait au divertissement, les concerts, tout était interdit. Les débits de boissons, les lieux de divertissement étaient fermés. Et ça tombait pile poil le jour de notre spectacle. En amont, il faut savoir qu'au sein des jeunes que j'avais formés, il y a Dieu qui m'a dit, toujours en rapport avec le songe que j'avais fait de l'aéroport, où moi j'avais ma valise, mais il y avait des valises sans propriétaire, Dieu m'avait dit qu'il m'emmènerait certaines personnes. Mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui venaient vraiment pour des intérêts personnels qui n'avaient même rien à voir avec la drépanocytose ou la situation de vulnérabilité, qui vont se dévoiler après pour me dire, en fait, je n'étais pas malade, mais j'avais vraiment besoin de me faire former et qu'importe ce qu'il faut faire, je veux être bénévole. Dans la mesure où je continue à me faire former, moi, je n'arrête pas l'aventure, Raphaël. Donc, ce jeune-là, imprécisément, vers la fin, il va commencer à avoir des comportements pas trop bien. C'est-à-dire qu'il contacte les médias au nom de notre association, mais pour vendre son image. C'est-à-dire qu'il se fait prévaloir et il ne m'informe même pas tout ce qu'il fait pour se mettre en avant. Mon erreur, c'est que je lui avais laissé aussi apprendre et puis faire par lui-même pour le laisser aussi voler par ses propres ailes. Ben, il a eu justement trop de zèle à un point où il commençait à dire mon spectacle et Et voilà que ça commençait à se voir. Quand il fait ses intrigues, je ne suis pas au courant. Mais bizarrement, et c'est là où je dis que Dieu est très grand, Dieu m'a emmené pile poil aux endroits là où il a pris contact avec des personnes pour faire quelque chose à propos de ce spectacle, alors que je n'avais aucune possibilité de savoir qu'il était passé là avant moi. Et même des endroits que je ne fréquente juste pas. Mais Dieu m'a emmené là, comme par hasard dans l'organisation du spectacle. Dieu m'a emmené là et il faisait des choses dans mon dos et Dieu m'a emmené pile poil à l'endroit où il faisait ses intrigues. Et c'est à ce moment-là que je lui dis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais je te propose, comme tu t'es déjà beaucoup engagé, qu'on fasse le spectacle, mais à la fin du spectacle, que chacun continue sa voie. Et c'est là où il va se déchaîner. On menace, on insulte, on... Tout, c'est vraiment le démon qui a été dévoilé. Il dit une chose et son contraire. Il menace, il insulte et il dit bah, je t'ai pas insulté. Bref. Et ce qui m'avait frappé par rapport à son départ, c'est que quelque temps auparavant, Dieu m'avait dit qu'on monterait sur scène avec des bougies. J'ai pas compris tout de suite. Après, il m'a dit, tu as sélectionné les gens par la chair. Tu as sélectionné les gens que tu formes par la chair, par les émotions. Tu t'es laissé toucher parce que tu aimes bien les gens, mais tu ne sais pas avec quel esprit ils sont venus. Donc moi, je te propose d'emmener cette bougie. Tu mets la bougie sur la scène et moi, je te montrerai qui j'ai véritablement sélectionné dans le projet, si c'est une personne que moi, je t'ai envoyée ou pas. Chaque personne qui passera avec ta bougie va déclamer. Et si la bougie s'éteint, ça veut dire que cette personne n'est pas dans mon esprit. Et quand je leur dis ça, les autres, ils rigolent un peu, mais lui, il est farouchement opposé à cette idée. Non, madame, pourquoi on va passer avec des bougies? C'est pas normal. Si la bougie s'éteint, après 9 mois de travail, je ne conçois pas que la personne ne puisse pas déclamer son texte jusqu'à la fin. Ou bien si la bougie s'éteint, la personne peut continuer son texte et puis à la fin, on n'en parle plus. Dieu a été clair et net, tout le monde passe avec bougie, mais lui, ça lui posait problème. Et avant même le spectacle, on a eu cette crise-là où Dieu m'a dévoilé ses intrigues en m'emmenant là où il les avait faites. Donc du coup, nous avons tout organisé et on était prêts à passer sur scène. Sauf que, décret de deuil national, on n'avait pas le droit de monter sur scène parce qu'il y avait juste l'interdiction. Et donc, j'appelle la direction de l'IFC pour leur expliquer la situation dans laquelle je me trouve. Ils me disent, Madame, nous ne vous avons pas contacté pour dire que le spectacle a été annulé. C'est vrai que c'est une situation difficile, mais vous allez me faire le spectacle et vous allez juste prendre la précaution de faire observer 1 minute de silence. On ne peut pas interrompre quelque chose qui a été organisé et rudement mené pendant 9 mois. Comme ça, on ne peut même pas ajourner parce que le calendrier, il est déjà saturé. Chaque date précise, on ne peut pas ajourner. Et donc, du coup, moi, je repars vers l'église catholique. Donc, on a deux groupes sur WhatsApp pour leur dire que le spectacle se tient quand même. Alors là, il y a des gens qui s'en prennent à moi, en particulier un prêtre, mais je ne sais pas qui est prêtre. Il me dit, bah, ça ne se fait pas, tu ne respectes pas la mémoire des personnes qui sont disparues et tu ne respectes même pas la parole d'autorité de l'État, sachant que c'est aussi une autorité spirituelle. Et quand on dit que c'est un deuil national, tu ne peux pas te lever, toi. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que l'IFC a dit, le seul qui a financé. Si je dis que je ne monte pas le spectacle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur rends leur argent? Est-ce que je leur dis que bah voilà, je ne monterai pas sur scène? Et lorsqu'il s'agira de faire le rapport moral et financier, qu'est-ce que je mettrai dedans? Il me dit carrément, s'il faut parler à l'ambassadeur, il faut parler. C'est tout un État, tout un pays qui est endeuillé. Ça peut devenir un problème diplomatique dans le sens où la France ne respecte pas l'état de deuil national qui a été décrété. J'ai dit, moi, je suis couverte par le fait que c'est l'IFC qui me dit de monter sur scène. L'Institut français fait partie de l'ambassade de France, donc je ne suis pas sur le territoire congolais lorsque je suis à l'Institut français. Et ça part dans tous les sens et je lui dis, ben, je suis désolée, demain, je dois monter sur scène et j'ai conscience spirituellement ce que ça signifie. C'est un deuil national, ça veut dire que les ténèbres sont relâchées sur le territoire. Je ne suis pas un petit enfant. Alors moi, si je vais avec la présence de Dieu, si c'est Dieu qui me dit de monter sur scène, j'aurais pas peur. Et je lui dis, bah, je suis désolée de vous mettre dans cette situation, monsieur. Et là, il me dit, je ne suis pas monsieur, je suis monsieur l'abbé. Et c'est là où je réalise que c'est un problème. Je vais être désolée, monsieur l'abbé, je ne peux pas faire autrement. Déjà, je ne sais pas à quoi va ressembler ma journée de demain. Donc, faire des débats, on était à 23h, sachant que demain, j'ai une journée lourde qui m'attend. Merci, mais non, merci, au revoir. Et donc, j'arrête de converser, mais pour autant, il continue d'envoyer des choses, des invectives pour me démoraliser. Dieu me dit attention à l'attaque spirituelle. Donc, je fais comme si de rien n'était. Et donc, on va monter sur scène. Et donc, en montant sur scène, les enfants déclament, chacun passe avec sa bougie. La bougie de personne ne s'est éteinte, sauf quelqu'un qui a oublié de monter avec une bougie. Et là, je me dis, quel que soit l'affect que je peux avoir pour cette personne-là, Dieu a été clair avec moi, celui qui n'a pas sa bougie n'a pas été choisi par moi. Et bizarrement, quand je passe, je réalise en fait ce que Dieu avait fait et que je ne comprenais pas. On avait fait une série photo pour faire passer les messages sur la lutte contre la drépanocytose, la lutte contre le cancer, la situation des orphelins, et nos t-shirts étaient noirs. Et on arrive ce jour-là, mon coach qui m'avait pris aux ateliers est venu, il était habillé tout en noir et il a fait un texte pour saluer la mémoire des jeunes qui étaient disparus lors du recrutement de l'armée. Et ensuite, moi, quand je viens, je déclame mon texte. Quand je passe avec ma bougie, je réalise en fait qu'on est un jour de deuil national, qu'on est tous habillés en noir et qu'on a tous des bougies. Et là, je réalise en fait que Dieu savait ce que je ne savais pas, que Dieu voyait ce qui arrivait que moi je ne voyais pas. On était juste dans le contexte parfait et on aurait pu dire qu'on avait préparé ce spectacle-là comme si on savait qu'il y aurait eu un deuil national. On était en noir, on avait nos cierges et j'ai commencé à déclamer mon slam et à la fin, j'ai improvisé le texte comme si j'avais de nouvelles paroles et ces nouvelles paroles m'étaient données pour saluer la mémoire de ces jeunes qui étaient disparus. C'était juste parfait. On est sorti de là avec des retours immensément bons. Les gens ont été touchés, ils nous ont dit « quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, on sait que tu en as sans doute eu des difficultés, quelles que soient les difficultés que tu as eues, continue, n'arrête pas avec ces jeunes, continue. » Et c'est comme ça qu'un jour de deuil national, dans mon texte, j'ai pu dire « qu'à Brazzaville, que la lumière soit ». Ça, c'était mon témoignage. Et pour ajouter un petit truc qui a été tellement merveilleux, c'est que pendant qu'on préparait le spectacle, j'avais invité donc à monter sur scène mon coach, qui est une grande star de slam ici. Il a été vice-champion de slam en 2015, qui a été organisé en France. C'est un gars hyper talentueux qui m'a formé et qui a toujours cette bienveillance à mon égard. Quand je l'ai invité pour notre spectacle, ça a été sans hésitation, mais il m'avait demandé juste une petite faveur. C'est qu'il a une politique dans laquelle il met en avant les jeunes talents de slam et poésie qu'il connaît et qu'il a formés. Donc il m'avait dit de venir réaliser une vidéo à l'endroit où même on faisait des répétitions pour le spectacle. Ils sont venus, ils étaient trois. Non, il y avait un aveugle, il y avait un qui a déclamé sur la situation des jeunes sans emploi et moi qui ai déclamé sur la drépanocytose. Il a mis cette vidéo qu'il a considérée pertinente, il l'a mis sur sa page TikTok. Mais il y a un mois, la vidéo était à 20 000 vues pour 2 000 j'aime. Et il était tellement touché parce que, en termes de score, j'ai battu tous les records sur sa page, après lui bien sûr. Mais il est tellement touché, il me dit « Princilia, il faut que tu continues d'une manière ou d'une autre, il faut que tu continues ». Dans tout ça, je vois l'œuvre de Dieu et je me dis « waouh ». Partant des songes que j'avais reçus, de cette voix qui était en moi, qui a été révélée, que les gens disaient « waouh ». Et Dieu qui me disait, tu as peur, enlève la peur, ne néglige pas ce que tu dois faire, n'aie pas peur. Il nous a conduits, malgré tous les obstacles, les entraves, les attaques. Aujourd'hui, voilà ce que les ailes de Raphaël ont permis de transmettre comme lumière. Ça a touché le cœur des gens et aujourd'hui, les gens veulent continuer avec nous, des gens veulent nous aider. Les épreuves continuent sur le plan personnel, mais Dieu vit. Et j'espère que ce témoignage va vous toucher. Et j'en profite aussi pour dire que si vous avez la possibilité de nous aider où que vous vous trouviez, ce sera vraiment une grande aide et une belle intervention dans cette œuvre que Dieu est en train de faire. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouveaux témoignages parce que nous savons que Dieu n'en a pas terminé avec nous. Portez-vous bien.